Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'attentat de Lockerbie, le jour où la mort est tombée du ciel. Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 du vol 103 de la Pan Am Airways explose en plein vol et retombe sur la petite ville écossaise de Lockerbie. À 19h02, c'est une pluie de feu, de sang et de fer qui s'abat sur la ville et ses habitants. Les 259 passagers du vol qui reliait Londres à New York meurent sur le coup. À terre, 11 habitants de Lockerbie sont tués, écrasés par la carlingue. L'enquête va durer plus de 3 ans et il faudra en attendre 12 pour que le coupable soit jugé par une cour internationale et condamné. Pendant toutes ces années, l'affaire occupe les médias internationaux et passionne des dizaines de journalistes d'investigation qui tentent de démêler cette histoire complexe et sinueuse. Les diverses enquêtes, officielles et officieuses, nous mènent de l'Iran de Roménie à la Syrie d'Hafez el-Assad pour finalement s'achever dans la Libye du colonel Kadhafi. Il faudra aussi emprunter les couloirs de la CIA, bien sûr, sans quoi il manquerait l'ingrédient principal de toutes ces histoires qui deviennent au fil du temps des machines à fantasmes. Aujourd'hui, le coupable désigné est mort et les familles des victimes indemnisées. Officiellement, donc, le dossier est clos. Pourtant, l'affaire de Lockerbie est toujours explosive. Pour les Britanniques, il s'agit de l'attentat terroriste sur son sol le plus meurtrier de son histoire. Et pour les Américains, qui perdent 189 de leurs compatriotes, la plaie est toujours béante et trop de questions restent en suspens. Pour en parler après le récit, nous accueillerons en seconde partie d'émission le journaliste Pierre Priet. Pendant plus de 20 ans, il a couvert pour le Figaro l'actualité du Proche-Orient et de l'Afrique. Il est également l'un des fondateurs du média en ligne Orient 21. Il est à Nantes, dans les studios de France Bleu Loire-Océan, que nous remercions pour leur accueil. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Margot Pinel avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination, Christophe Barrère, attaché de production Elisa Mar et Lucille Valéry. Programmation musicale Muriel Pérez. Réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Mehdi Fatah.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
À une trentaine de kilomètres de la frontière anglaise, Lockerbie est une petite bourgade paisible du sud-ouest écossais, entourée de lochs sauvages battus par des vents glaciaux. 3000 âmes, un cinéma, quelques usines et 3 églises, tel est le décor. Ce mercredi 21 décembre 1988, malgré la pluie et le froid, Lockerbie a des airs de fête, car nous sommes à quelques jours de Noël, guirlandes et étoiles lumineuses décorent les rues de la ville. Ce jour-là, peu après 18h, Stephen Flanagan, 14 ans, quitte sa maison de Sherwood Crescent pour se rendre chez David, son voisin. Dans son garage, les deux adolescents réparent la bicyclette de Joanne, la petite sœur de Stephen. Au même moment, à l'aéroport Heathrow, à Londres, le vol 103 de la Pan Am Airways s'apprête à décoller. L'avion, un Boeing 747, est arrivé d'Allemagne avec une vingtaine de minutes de retard et met le cap au nord-est direction New York. À son bord, 243 passagers ont pris place. Parmi eux, une trentaine de militaires américains basés à Francfort, en RFA, République fédérale d'Allemagne. C'est leur première permission depuis des mois. À leur côté, il y a aussi 35 étudiants américains qui participent à un programme d'échange organisé par l'université de Syracuse dans l'État de New York. Pour la plupart des passagers, ces fêtes de Noël, c'est l'occasion heureuse d'un retour au pays natal. À 19h, 25 minutes après le décollage, l'avion entre dans l'espace aérien écossais. Le commandant de bord, James McCrary, prend contact avec les contrôleurs aériens de Prestwick. À 9500 mètres d'altitude, le vol a atteint sa vitesse de croisière, rien à signaler. Mais 2 minutes plus tard, à 19h, 2 minutes et 46 secondes, le vol 103 de la Pan Am disparaît des écrans radars. Dix kilomètres plus bas, Lockerbie, la terre tremble sous les pieds de Stephen et David. Puis un immense nuage de poussière envahit le garage. Les deux garçons se précipitent dehors, le ciel leur tombe sur la tête. Et cette fois, ce n'est pas une image, non, c'est la réalité. C'est une pluie discontinue de tôles, de débris d'acier, de corps humains ou ce qu'il en reste, qui s'abat sur eux. Stephen accourt chez lui. Une épaisse fumée noire s'échappe de sa maison. Celle d'à côté est en feu, celle d'en face a complètement disparu. Lockerbie brûle. Violemment arrachés de leur quotidien, les habitants ont du mal à comprendre ce qui arrive. Un coup de tonnerre, un tremblement de terre, une bombe nucléaire, ou bien peut-être l'explosion de l'usine chimique située à l'entrée de la ville. Au micro de la BBC, il témoigne.
Ah mon Dieu, c'était terrible. Il y a eu des étincelles et tout est tombé. Il y avait ce bruit horrible, comme un hurlement. Et puis tout le ciel s'est embrasé, comme un feu liquide qui pleuvait sur la voiture. La boule de feu est restée en l'air pendant 2 minutes et puis il y a eu plein d'éclairs, comme ces documentaires, vous savez, qu'on voit sur les bombes.
Sous un ciel enflammé, les maisons sont plongées dans le noir, les lignes téléphoniques rompues, les routes barrées. Dans la lumière des phares, les secouristes découvrent les cadavres. Il y en a partout. À leur côté, on retrouve les derniers témoins de la vie à bord, des couverts en plastique, des valises éventrées, des sièges bleus et rouges et 300 tonnes de métal. Le Boeing 747 de la Pan Am, qui effectue la liaison régulière Francfort, Londres, New York, s'est écrasé sur Lockerbie. À l'hôpital de la ville, on attend les blessés, en vain. 243 passagers et 16 membres d'équipage étaient à bord, il n'y a aucun survivant. Aux États-Unis, les journaux télévisés du soir montrent des scènes terribles tournées à l'aéroport John Kennedy de New York, où l'on voit des familles ivres de douleur à qui l'on vient d'annoncer la disparition d'un proche. Il y avait 189 Américains dans l'avion. Au petit matin du 22 décembre 1988, des centaines de militaires et de policiers ratissent la région, collectent les corps et les premiers débris. Dans le ciel gris, les hélicoptères continuent de tournoyer au-dessus de la ville. De loin, Lockerbie ressemble à un champ de bataille. De près, c'est un cimetière à ciel ouvert, une zone sinistrée, peu à peu envahie par les ambulances, les pompiers, les journalistes et les équipes de télé. La petite ville écossaise devient le centre d'attention du monde entier, un centre du monde dramatique. En fin de matinée, le premier ministre britannique, Margaret Thatcher, et le prince Andrew arrivent sur place et constatent l'ampleur des dégâts.
C'est terrible, c'est bouleversant, toutes ces vies brisées. Les enquêteurs devront tenir compte de tout, du moindre détail, pour déterminer les circonstances de cet accident.
C'est difficile de dire quoi que ce soit, j'adresse simplement mes sincères condoléances à tous les habitants de Lockerbie.
C'est au centre de Lockerbie, sur Sherwood Crescent, que l'impact était le plus important. C'est là que le plus gros morceau du fuselage est tombé, avec l'essentiel des 100 tonnes de carburant du 747. Désormais, un immense cratère de 5 mètres de profondeur et de 30 mètres de diamètre remplace les anciennes habitations. Parmi elles, il y a celle de Stephen Flanagan. Ce matin du 22 décembre 1988, il apprend qu'il vient de perdre sa mère, son père et sa sœur cadette. Aux 259 passagers de l'avion s'ajoutent désormais 11 habitants de la ville de Lockerbie. Quelques heures seulement après le drame, la question est sur toutes les lèvres. Accident ou attentat? Pour l'instant, les enquêteurs n'ont qu'une certitude. L'avion s'est désintégré en vol avant de s'écraser au sol, car les débris de la carlingue sont éparpillés sur un rayon de plus de 20 km autour de Lockerbie. Le poste de pilotage, retrouvé le soir du drame, atteste lui aussi de l'explosion dans le ciel, car il est quasiment intact, comme si le cockpit avait été coupé net à l'entrée de la cabine. On s'interroge alors sur l'état et la vétusté de l'appareil. Ce Boeing 747, surnommé le Clipper Made of the Seas, est le 15e fabriqué par la firme américaine et c'est l'un des plus âgés de la flotte. Il a plus de 18 ans d'âge lorsqu'il s'écrase sur Lockerbie et 75 000 heures de vol au compteur. Mais la thèse de la défaillance technique est vite écartée au profit de l'attentat, et pour cause. Au lendemain du drame, le gouvernement américain avoue que moins d'un mois avant le crash, il avait été informé d'une menace d'attentat sur un avion de la Pan Am et de surcroît au départ de Francfort. L'information avait été transmise aux ambassades américaines et autres compagnies aériennes, mais pas au public. Première polémique. D'autres éléments accréditent la piste terroriste, comme la rupture soudaine des liaisons radio et la soudaineté de l'explosion. Au micro de France Inter, David Kill, directeur des relations publiques de l'IATA, l'Association internationale des transporteurs aériens, explique ses soupçons.
D'après notre expérience, il semblerait qu'une explosion a dû provoquer cet accident tragique et une explosion de cette nature ne peut être que criminelle. Nous avons l'impression qu'il y a des parallèles étranges avec ce qui s'est passé avec l'avion d'Air India il y a 3 ans. Avion à son altitude de croisière, perte de contact avec le cockpit qui était très abrupte, et puis le fait que, effectivement, on n'a jamais perdu d'avion sur l'Atlantique Nord depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les explosions n'arrivent pas sur les avions sans raison extérieure au bon fonctionnement de l'appareil. Donc on ne peut pas écarter l'hypothèse, justement, d'un attentat.
Si tout ou presque laisse à penser qu'il s'agit d'un attentat, il faut maintenant le prouver, et vite. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'émotion est immense, tout le monde attend des réponses claires. La Pan Am Airways étant une compagnie aérienne américaine, l'enquête est placée sous la responsabilité des États-Unis qui vont travailler en étroite collaboration avec Scotland Yard. Le lendemain de la catastrophe, le 22 décembre 1988, une nuée d'experts et d'enquêteurs s'envole vers l'Écosse. Plus de 1000 agents de police et 600 membres des forces armées vont devoir faire parler les 10 000 débris du Boeing 747. Pour diriger les recherches, le Pentagone va jusqu'à dévier l'orbite d'un de ses satellites pour prendre des photos à grande échelle. Comme pour une scène de crime, chaque morceau de l'avion est étiqueté, mis dans un sac plastique et envoyé à la base militaire de Farnborough, au sud de l'Angleterre. Là, des techniciens britanniques vont reconstituer minutieusement la carcasse de l'avion. Un gigantesque puzzle avec à l'intérieur la clé du mystère. Après une semaine de recherche dans la boue et sous la pluie, les enquêteurs tiennent enfin leurs preuves. Oui, un morceau de rail qui sert à glisser des conteneurs à bagages dans la soute de l'avion est constellé de traces de brûlures, cratères qui prouvent qu'une bombe a explosé à proximité. Le 28 décembre 1988, en fin d'après-midi, Mike Charles, chef de l'enquête, annonce officiellement que le crash du vol 103 de la Pan Am est un attentat.
Il est désormais établi qu'en deux endroits différents, l'armature d'un compartiment à bagages présente des traces d'un explosif de forte puissance. Les résidus d'explosifs retrouvés dans les débris ont été formellement identifiés. Ils proviennent d'une charge de plastique très performant. D'autres éléments, recueillis en particulier grâce à l'étude des enregistrements des boîtes noires, comme sur les lieux du crash, permettent de conclure que l'explosion a eu lieu alors que l'avion avait à peine quitté l'Écosse, à 10 000 mètres d'altitude. Cette explosion a provoqué la destruction de l'appareil.
Dans le hangar militaire de Farnborough, les enquêteurs continuent d'analyser méticuleusement les tonnes de débris. Peu à peu, ils parviennent à écrire un premier scénario du drame. À l'aéroport de Francfort, une valise marron a été enregistrée jusqu'à son terminus, New York. À Londres, elle passe entre les mailles du filet et voyage désormais sans propriétaire. À l'intérieur, dans les piles d'une radiocassette de marque Toshiba, se trouvent quelques grammes de Semtex, un explosif d'origine tchécoslovaque, malléable, hyper puissant et indétectable au rayon X. Le détonateur s'allume et réagit à la pression atmosphérique après un délai de 30 minutes. Si l'avion au départ d'Heathrow n'avait pas eu de retard, la bombe aurait explosé au-dessus de l'Atlantique pour disparaître sans laisser de traces. Reste à savoir qui a placé cette bombe et pourquoi. Les investigations menées de concert par les services britanniques, allemands et américains vont durer près de 3 ans. C'est l'une des enquêtes les plus chères de l'histoire. 15 000 témoins entendus dans 154 pays, 20 000 identités vérifiées, 35 000 photos examinées et 180 000 pièces à conviction analysées. Toutes les pistes sont envisagées à travers les sentiers sinueux et complexes du contexte géopolitique de l'époque. La première piste explorée mène en Iran. Le 22 décembre 1988, au lendemain du drame, les gardiens de la révolution islamique, un mouvement intégriste pro-iranien, revendiquent l'attentat à la bombe contre le Boeing 747.
Alors, la revendication, eh bien, la voici. Dans un coup de téléphone au bureau de l'Associated Press, c'est une agence de presse à Londres, un homme a téléphoné en disant ceci. Il parle au nom des gardiens de la révolution islamique. Il dit, nous avons entrepris de cette exécution héroïque pour nous venger de la destruction de l'avion d'Iran Air par l'Amérique il y a quelques mois et à cause de la présence de la famille du Shah en Amérique. Il conclut avec ces mots, nous sommes très fiers.
Les gardiens de la révolution islamique font partie de ces nombreux groupuscules terroristes islamistes basés au Liban. Ils disent servir les intérêts de l'ayatollah Khomeini et combattre, je cite, le grand Satan et le mal absolu, respectivement les États-Unis et Israël. Mais aucun élément concret ne venant corroborer cette revendication, la piste iranienne est mise de côté. D'ailleurs, Téhéran dément toute implication, d'autant plus que le guide de la révolution cherche à normaliser ses relations avec l'Occident. Les enquêteurs se tournent alors vers l'Allemagne. À Lockerbie, dans les débris de l'avion, ils ont en effet retrouvé des bouts de circuit électronique provenant d'une radiocassette Toshiba. Après enquête, ils en ont déduit que l'explosif était caché dedans et que la valise piégée avait été enregistrée à Francfort. Or, deux mois avant l'attentat, la police allemande fait une découverte étrangement similaire. Deux terroristes sont arrêtés à Neuss, près de Düsseldorf. Ils appartiennent au Front populaire de libération de la Palestine, commandement général, FPLPCG, basé à Damas, en Syrie. Dans le coffre de leur voiture, les policiers trouvent une radiocassette Toshiba transformée en bombe, ainsi que des passeports syriens vierges. L'enquête avance et se déplace désormais, et logiquement, en Syrie. Le FPLPCG est l'une des multiples factions dissidentes de l'OLP. Le chef de ce groupe basé à Damas s'appelle Ahmad Jibril, officier de l'armée syrienne et farouche opposant de Yasser Arafat. Au cours des années 80, le FPLPCG est impliqué dans plusieurs attentats à la bombe en Europe. Il a tissé des liens étroits avec l'Iran. Pour les enquêteurs, il devient le suspect numéro 1. Et les journalistes qui couvrent l'événement renchérissent, comme en témoigne cette révélation de la chaîne CBS le 1er décembre 1989.
Il s'en serait vanté en privé. Ahmed Jibril aurait affirmé avoir reçu 10 millions de dollars de l'Iran pour l'attentat de Lockerbie. Lui, le chef du FPLP commandement général, aurait envoyé l'un de ses hommes, Abu Taleb, en Suède, pour monter l'opération. Lundi dernier, une perquisition avait lieu dans cet appartement où a vécu Taleb. Des vêtements achetés à Malte étaient saisis. Or, des habits de la même origine ont été trouvés à Lockerbie, dans les débris de la valise qui contenait l'engin explosif. Ces informations données par la chaîne ABC recoupent l'enquête que conduisent les services anglais et américains. Mais les expertises ne sont pas encore terminées et Jibril, depuis Damas, a démenti tous ces éléments. Pour autant, les enquêteurs sont persuadés que c'est bien son organisation qui a posé la bombe.
Tout semble donc en place pour dresser un acte d'accusation en bonne et due forme. Pourtant, plus d'un an après le crash du Boeing 747, un minuscule morceau de plastique va changer la donne et orienter les enquêteurs en Libye. The sky is crying. Look at the tears rolling down the streets. It's alright. The sky is crying. Look at the tears rolling down the street. Yeah. I looked out my window. The rain was falling down in sheets. My baby left me this morning. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, l'attentat de Lockerbie.
Madame, monsieur, bonsoir. À nouveau, la Libye montrait du doigt dans un attentat terroriste. Aux États-Unis, deux officiers des services de renseignement libyens ont été officiellement inculpés cet après-midi dans l'enquête sur l'attentat contre un Boeing de la Paname, attentat qui avait fait 270 morts en décembre 88 dans le ciel de l'Écosse. Commentaire de notre correspondant Jacques Abouchard.
We indict today are Abdel Basset Ali Al-Megrahi and Laman Khalifa Fima.
Deux agents des services de renseignement libyens, Al-Megrahi et Khalifa Fima, sont inculpés aux États-Unis dans l'attentat de Lockerbie. Au cours d'une conférence de presse, le ministre américain de la Justice par intérim, William Barr, a expliqué comment les deux hommes avaient monté l'opération qui a fait 270 morts dans l'explosion d'un Boeing de la Paname le 21 décembre 1988 au-dessus de l'Écosse.
Le 14 novembre 1991, après 3 ans d'enquête, les coupables présumés sont donc désignés. Ils s'appellent Abdel Basset Ali Mohamed Al-Megrahi et Al-Amin Khalifa Fima, tous deux identifiés comme étant deux agents des services secrets libyens. Voici comment les enquêteurs sont parvenus à remonter le fil d'Ariane. Dans les débris du crash du Boeing 747, 1 an et demi après le début des investigations, ils découvrent un petit bout de plastique de moins d'un centimètre, coincé dans le col d'une chemise qui se trouvait à l'intérieur de la valise piégée. C'est un morceau de circuit intégré, mais qui n'appartient pas à la radiocassette Toshiba, et pour cause. C'est en fait le bout du détonateur qui a fait exploser la bombe. Minutieusement radiographié, il conduit les autorités à Zurich, en Suisse, chez son fabricant, la firme Mebo. Edwin Bollier, l'un de ses cofondateurs, reconnaît avoir vendu en 1986 un stock de 20 prototypes de ce timer, le MST-13, au gouvernement libyen. Vient ensuite l'analyse de la chemise en question. Elle provient d'une boutique de l'île de Malte, située à 300 mètres de l'aéroport. Or, les enquêteurs découvrent que la valise piégée a d'abord été enregistrée à Malte avant d'embarquer sur le Boeing 747 à l'aéroport de Francfort. Face au FBI, le vendeur de la chemise croit reconnaître son acheteur. Il s'agit d'Al-Megrahi, chef de la section de sécurité aérienne, une filiale directe des services secrets libyens. Un autre agent travaille avec lui, Al-Amin Khalifa Fima. Après des mois d'enquête et de recoupement, c'est donc sur ces bases que les deux hommes sont accusés le 14 novembre 1991. Mais face aux caméras de la chaîne américaine ABC, ils s'en défendent, soutenus par leur président, le colonel Kadhafi.
Hier à la une de la presse américaine, aujourd'hui devant la caméra d'ABC News, l'un des deux Libyens réclamés par la justice américaine est instigateur présumé de l'attentat sanglant contre la Paname. On m'accuse à tort et je n'étais pas à l'aéroport de Malte le 21 décembre comme l'affirment les renseignements américains. J'étais chez moi à Tripoli avec ma famille. D'ailleurs, voyez ce passeport. Quand j'étais à Malte, c'était le 7 décembre 88. Je n'y étais donc pas le 21, le jour où l'on m'accuse d'y avoir acheté le parapluie et les vêtements retrouvés dans les décombres du vol 103. Et chacun des deux suspects de poser avec sa famille devant les caméras. Pour parachever la démonstration du démenti libyen, le colonel Kadhafi met les petits plats dans les grands pour recevoir le journaliste Pierre Salinger et lui confier sa colère contre les accusations américaines. Pas question d'extrader les deux Libyens. Mais aussi lui dire, vous savez, George Bush n'est pas comme l'ancien président Reagan, c'est un homme raisonnable, je suis sûr qu'on pourra lui prouver notre bonne foi. Explication toujours, cette fois-ci à Beyrouth, nouvelle étape d'une tournée proche-orientale du premier ministre de Kadhafi. Il a demandé à tous ses frères arabes de défendre partout le point de vue libyen face aux Américains.
C'est donc un régime également qui est mis en cause, celui du commanditaire présumé de l'attentat, le colonel Muammar Kadhafi, arrivé au pouvoir à Tripoli en 1969. Durant les années 70 et 80, le guide libyen est directement impliqué dans le terrorisme européen, fournissant des armes à l'armée républicaine irlandaise, à l'IRA, à l'OTA espagnole ou aux brigades rouges italiennes. La Libye est mise au banc des nations et entre dans la liste noire des États voyous. En avril 1986, quelques jours après l'attentat contre une discothèque berlinoise qui cause la mort de 3 soldats américains, le président des États-Unis, Ronald Reagan, accuse la Libye et trouve un nouveau surnom au colonel, le chien fou du Moyen-Orient. « Ainsi, en 1988, lors de l'attentat de Lockerbie, la Libye est un pays isolé qui subit une grave crise économique due notamment à la chute du prix du baril de pétrole et à l'embargo commercial des États-Unis imposé depuis 2 ans. Pourquoi alors Tripoli aurait-elle commandité l'attentat de Lockerbie au risque de s'affaiblir un peu plus ? Par vengeance, peut-être. Après le bombardement de Tripoli par les Américains en avril 1986, qui avait touché la résidence du guide libyen, qui en avait réchappé, contrairement à sa fille adoptive, Anna, tuée, elle, à l'âge de 15 mois. Mais le colonel Kadhafi clame son innocence. Certes, il connaît ses 2 agents, mais il affirme qu'ils ne sont pas impliqués dans l'attentat de Lockerbie. Il refuse donc la demande d'extradition des États-Unis et de la Grande-Bretagne. De toute façon, ces négociations officielles avaient peu de chances d'aboutir. Il n'existe aucun accord d'extradition entre la Libye, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et cela fait bien longtemps que les relations diplomatiques entre Tripoli et les gouvernements occidentaux sont rompues. Pour les familles des victimes, c'est la douche froide. Après des années d'enquête et d'atermoiement, les coupables sont enfin désignés, mais intouchables. Alors, comment contraindre Kadhafi ? Pour les États-Unis, une attaque au sol est impensable. Le pays se remet tout juste de la guerre du Golfe. Les sanctions seront donc économiques. Le 15 avril 1992, l'ONU vote l'embargo aérien contre la Libye, l'interdiction de vente d'armes et le gel des avoirs financiers libyens. Mais Kadhafi ne bronche pas, fidèle à sa réputation. Le bras de fer diplomatique va durer 7 ans et mettre la Libye à bout de souffle. Acculé, le colonel Kadhafi cède enfin le 5 avril 1999 et livre à la justice écossaise les 2 suspects de l'attentat contre le vol 103 de la Panam, Abdel Basseli Mohamed Al-Megrahi et Alamin Khalifa Fima.
Ils ont quitté Tripoli ce matin comme des héros en brandissant le V de la victoire. Abdel Al-Megrahi et Alamin Fima, 2 agents secrets libyens, montent dans l'avion de l'ONU qui les amène aux Pays-Bas. Ils seront jugés dans cette base militaire transformée en tribunal. Un procès exceptionnel puisque ce sont des magistrats écossais qui siégeront. Un procès sur l'une des actions terroristes les plus meurtrières de l'histoire. En milieu d'après-midi, les 2 suspects sont arrivés sur le sol néerlandais. Une arrivée discrète et sous haute surveillance. En livrant les 2 hommes, la Libye a tenu sa parole. L'ONU a bien reçu le message.
Je vais très rapidement envoyer un rapport au président du Conseil de sécurité pour confirmer que les 2 suspects sont arrivés aux Pays-Bas et qu'ils sont désormais entre les mains des autorités néerlandaises. Le Conseil devra suspendre immédiatement les sanctions.
Le procès qui s'ouvre le 3 mai 2000 est bien celui de 2 hommes et non celui d'un régime, comme l'espéraient les familles des victimes. Pour l'avocate d'Al-Megrahi, Margaret Scott, le dossier ne tient pas à la route. Alors jusqu'au bout, elle tentera de démontrer l'implication du FPLP-CG d'Ahmad Jibril, en vain. Finalement, après 9 mois de débat et l'audition de 230 témoins, la Cour internationale de justice arrive au bout des 10 000 pages du dossier d'instruction. Le 31 janvier 2001, le verdict tombe. Abdelbaseh Ali Al-Megrahi est reconnu coupable de meurtre. Alamin Khalifa Fahima, lui, est acquitté.
Pour les familles des victimes réunies dans les bâtiments fédéraux, c'était un jour attendu depuis bien longtemps qui, sans faire oublier, permettait de refermer l'une des fenêtres avec vue sur la douleur. Mais pour tous, le fait que le premier des accusés n'ait été condamné qu'à un minimum de 20 ans de prison et le second acquitté était une nouvelle déception. 20 ans pour avoir tué 270 personnes, dit le père d'un étudiant tué lors de l'attentat terroriste contre le Panam 103. Ce n'est vraiment pas juste. Nous continuons nos efforts, on dit plusieurs, avec pour objectif le véritable auteur, le leader libyen Muammar Kadhafi. Et ils ont lancé un nouvel appel à la Maison-Blanche où le président Bush a fait sa première déclaration de politique étrangère. Rien ne pourra changer la souffrance et la perte de ce terrible acte, a-t-il dit. Et je veux assurer les familles que le gouvernement des États-Unis continuera à exercer sa pression pour que la Libye accepte la responsabilité de cet acte et compense les familles. Le verdict ne signifie en aucune façon la fin des sanctions des Nations Unies.
Effectivement, la fin du procès ne signifie pas une levée définitive de l'embargo contre la Libye. Le colonel Kadhafi va la prendre à ses dépens. Les États-Unis et la Grande-Bretagne réclament à présent l'indemnisation des familles des victimes et la reconnaissance officielle de la responsabilité du gouvernement libyen dans l'attentat de Lockerbie. Après avoir résisté pendant 2 ans, la Libye de Kadhafi reconnaît sa responsabilité civile le 29 avril 2003, mais pas sa responsabilité pénale. Tripoli accepte également de payer 2 milliards et 700 millions de dollars aux familles des victimes, soit 10 millions chacune. Du point de vue libyen, il ne s'agit ni d'un mea culpa, ni de compensation, non, c'est le prix de la levée des sanctions. Mais il lui faudra attendre encore un peu, car c'est ensuite la France qui s'y oppose, parce qu'elle a elle aussi une vieille affaire à régler avec Kadhafi. Un an après l'attentat de Lockerbie, le 19 septembre 1989, un avion DC-10 de l'UTA, une compagnie aérienne française, explose en plein vol au-dessus du désert nigérien, faisant 170 morts, dont 54 Français. Et là encore, c'est la Libye qui est montrée du doigt. La France réclame désormais l'équité dans l'indemnisation des victimes. Quelques mois plus tard, en janvier 2004, un accord est enfin signé. Les sanctions onusiennes sont définitivement levées. Le colonel Kadhafi solde ainsi son passé terroriste à coups de pétrodollars. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais nombreux sont ceux qui pensent qu'il y a eu manipulation. Aujourd'hui encore, des journalistes et une partie des familles des victimes restent persuadés que l'attentat a été perpétré pour le compte de l'Iran par le groupe palestinien d'Ahmad Jibril, le FPL-PCG, basé à Damas en Syrie. Et ils s'interrogent. Pourquoi avoir délaissé cette hypothèse alors que de nombreux éléments laissaient à penser qu'elle tenait la route? Les plus sceptiques avancent que la guerre du Golfe est passée par là. En 1991, en effet, la Syrie d'Hafez al-Assad est devenue un allié des États-Unis contre l'Irak de Saddam Hussein. Les États-Unis auraient-ils délibérément enterré la piste syro-iranienne pour ne pas mettre en péril cette précieuse alliance? La raison d'État aurait-elle conduit à un maquillage de la vérité? Et au fil des années, de nombreuses révélations jettent un peu plus le trouble. En 2007, par exemple, lorsque Ulrich Lumpert, un des principaux témoins à charge lors du procès, revient sur ses aveux, cet ingénieur de la firme suisse Mebo affirme avoir donné aux enquêteurs écossais le fameux petit bout de circuit intégré qui a servi à accuser la Libye. Et il dit « On voulait rendre la Libye coupable pour des raisons politiques, mais ce retardateur a été intentionnellement ajouté après coup aux pièces à conviction. » Dans la foulée, Al-Megrahi fait appel. Il est finalement libéré en 2009 pour des raisons humanitaires. Il souffrirait d'un cancer en phase terminale. 3 ans plus tard, le 20 mai 2012, il meurt dans son pays, entouré des siens et choyé comme un héros. 28 ans plus tard, l'attentat contre le vol 103 de la Paname conserve sa part de mystère. Et si quelques journalistes chevronnés continuent d'enquêter, cette histoire appartient désormais au passé. Depuis cette terrible soirée du 21 décembre 1988, la Paname a fait faillite et les principaux acteurs du drame sont morts. Reste la douleur immense des familles des victimes, en particulier celle de Stephen Flanagan, l'orphelin de Lockerbie. À 14 ans, il a perdu son père, sa mère et sa petite sœur. 12 ans plus tard, après des années d'errance, il se suicide en se jetant sous un train. Yeah.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'attentat de Lockerbie en décembre 1988, avec notre invité Pierre Prier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste. Pendant plus de 20 ans, vous avez couvert pour le Figaro l'actualité au Proche-Orient et aussi en Afrique. Vous êtes également l'un des fondateurs du média en ligne Orient 21. Alors, vous venez de réentendre l'histoire de l'attentat contre le vol 103 de la Paname, que vous avez vécu, je crois, comme jeune journaliste. Quel souvenir en avez-vous? Quelles sont les images qui vous restent?
Alors à l'époque, évidemment, l'image qui restait, c'était qu'on a encore tous dans la tête et qu'on revoit toujours, c'était l'Écosse. C'était le cockpit séparé du Boeing qui était au milieu de ce village. Il y avait même eu plein de spéculations sur le fait que les pilotes auraient pu ne pas mourir tout de suite, descendre comme ça dans le cockpit. Enfin, c'était vraiment une image choc et qui reste une image choc.
Et vous êtes allé sur place à Lockerbie?
Non, alors à l'époque, je travaillais pas directement sur ces questions-là. Et j'étais amené à m'y intéresser plus tard quand j'ai commencé à couvrir l'Afrique pour le Figaro. Et quand on couvre l'Afrique, à cette époque-là, quand on couvre l'Afrique, on arrivait assez rapidement à Mouammar Kadhafi.
Bien sûr. Alors, est-ce que c'est pour vous une histoire réglé, qui appartient au passé, ou au contraire, est-ce qu'il y a encore beaucoup à dire et surtout à découvrir?
Non, je crois que les questions restent les mêmes. Hein. Vous les avez évoquées. Il y a cette histoire. Il y a les preuves matérielles qui sont étranges. Hein. L'accusation reposait sur deux choses, sur la fameuse valise de vêtements achetée à Malte et sur le morceau de timer. Et les deux. Ces deux éléments-là sont extrêmement douteux. Et c'est d'ailleurs ce sont ces éléments-là qui ont amené à deux appels, finalement à ce que la justice écossaise, hein, puisque il faut rappeler que l'Écosse a son propre système judiciaire, a refaire le procès en déclarant un miscarriage of justice, qu'on peut dire, je ne sais pas moi, une erreur judiciaire patente, quoi.
Est-ce que le procès a été bâclé? Est-ce qu'on peut dire que ça a été bâclé? Ou que le procès s'est fait peut-être dans une manipulation que certains connaissaient, d'autres pas. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau judiciaire?
Alors d'abord, c'était un procès étrange, hein, puisque il s'est déroulé dans une base militaire de l'OTAN en Hollande, mais qui était déclaré territoire écossais, comme ça, fictivement, pour la durée du procès. Il y a eu un tas de négociations entre Kadhafi, les Écossais, l'ONU, pour organiser ce procès, qui finalement, Megrahi et Al-Fihma sont trouvés devant trois juges écossais, sans jury. Enfin, c'était vraiment un procès d'exception. Et plus tard, des participants à ce procès l'ont dénoncé.
C'est un procès qui a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponse, finalement.
Sans doute, oui. Il faut on sait que l'observateur des Nations Unies, qui s'appelait Hans Köchler, a dit après qu'il n'avait jamais vu un procès aussi bâclé, que la possibilité d'une énorme erreur judiciaire, je crois que c'est les termes qu'il avait employés, sont évidentes, que l'avocat écossais Robert Black, qui avait été le négociateur, qui avait permis un des principaux négociateurs, hein, celui qu'on a appelé l'architecte du procès de Lockerbie, il avait négocié entre l'ONU, Kadhafi et l'Écosse, lui aussi, encore maintenant, il fait campagne régulièrement sur son site Facebook, dans des interviews, pour dire qu'il y a eu une grosse erreur. Donc, oui, c'est vrai que ça pose encore beaucoup de questions. Et l'une des principales, donc les deux grandes questions, c'est, bon, vous les avez évoquées, le retardateur et la valise et le témoin des vêtements, c'est-à-dire le marchand maltais qui s'appelait Tony Gocci et qui est c'est lui qui a témoigné qu'il a vu un Libyen venir acheter des vêtements pour les mettre dans la valise, les vêtements qu'on a identifiés après formellement comme venant de son magasin, mais son témoignage a été vraiment très suspect. Il avait d'abord identifié l'homme du FPLP, hein, celui le Abou Talb. Ensuite il a identifié Megrahi, mais il a mis très longtemps à l'identifier. Il a fallu qu'on insiste beaucoup. Après, on a découvert qu'en fait, il avait déjà vu une photo de Megrahi dans un journal. La presse commençait à publier des photos de lui. Tout ça est très suspect. Bon, évidemment, il y a la fragilité du témoignage humain, hein, etc. Mais le témoignage de Gauchy est suspect. Et on a appris après que il participait dans le cadre d'un programme de protection des témoins américains. Il avait reçu des sommes importantes.
Voilà, donc on lui aurait dicté son témoignage. Maintenant, qui lui aurait dicté son témoignage? Est-ce que ce serait la CIA? Et pourquoi faire en sorte qu'on puisse accuser Kadhafi? Peut-être que c'est ça le montage.
Effectivement.
Hein, je sais pas.
Mais... Effectivement, le montage aurait été celui-là, d'après les partisans de la thèse de l'innocence de Kadhafi. Donc la thèse est simple, c'est, vous l'avez évoqué d'ailleurs, on ne pouvait absolument pas accuser la Syrie parce que on était aux abords de la guerre du Golfe. Les Américains avaient absolument besoin d'enrôler des pays arabes dans leur coalition parce que sinon ça paraissait comme une croisade occidentale contre Saddam. Et donc ils avaient réussi à avoir l'Égypte, mais il leur fallait la Syrie, pilier du Levant, pilier du Proche-Orient.
C'était une prise de guerre, une vraie prise de guerre, c'est ce qu'elle veut dire.
Voilà, et exactement. Et le fait de pouvoir dire, vous voyez, les Syriens sont à nos côtés. Bon, les Syriens, c'était aussi les vieux ennemis de l'Irak, et les grands alliés de l'Iran, déjà à l'époque. Mm-hmm. Bon, ils y trouvaient leur intérêt. Mais donc, il y aurait eu cette raison-là, qui, sur le plan géopolitique, se tient. Et puis, Kadhafi fournissait évidemment un coupable idéal. C'était le chien fou du Proche-Orient, effectivement. Il était quasiment en guerre... avec les États-Unis, il y avait déjà eu des incidents dans lesquels les États-Unis avaient abattu des avions libyens au sud du golfe de Sirte. Reagan avait accusé déjà la Libye de fabriquer des armes chimiques. À l'époque, les grands méchants n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Les grands méchants, c'était l'Iran, Saddam et... cerise sur le gâteau, ou premier prix du grand méchant, Kadhafi. Donc, toujours selon sa thèse-là, il fournissait un coupable bien pratique.
On va se retrouver dans 3 minutes, le temps d'écouter un disque, et on va reparler justement de Kadhafi et des raisons qui auraient pu pousser à première vue à considérer que c'était lui le commanditaire, parce que ça paraissait logique. Enfin, la vérité n'est pas toujours dans la logique. À tout de suite.
To the dark land, to talk in rhyme with my chaotic soul. As sure as life means nothing, and all tend to nothing, and heaven I think is too close to hell.
I want
Pierre Prier, je rappelle que vous êtes notre invité, que vous êtes journaliste et que vous avez beaucoup, pendant 20 ans, couvert l'actualité au Proche Moyen-Orient et en Afrique. Nous parlons de l'attentat au-dessus de Lockerbie et de ce qui pouvait accuser, comme ça, à première vue, le colonel Kadhafi. Il y a deux éléments, me semble-t-il. Deux ans avant, il y avait eu cet attentat contre le DC-10 du TA, dans lequel la France avait mené aussi des investigations, une enquête et accusé, donc Kadhafi était accusé dans ce drame. Et puis, il y a eu aussi le bombardement par Reagan de la résidence de Kadhafi, qui a perdu sa fille adoptive, et on s'est dit, c'est peut-être une vengeance. Avouez que tout cela tient debout, quand même. Qu'en pensez-vous de ces deux hypothèses?
Oui, bien entendu, ça tient debout. Hein. D'abord, l'attentat de l'UTA, bon, dont Kadhafi aussi disait qu'il n'était pas responsable. Hein. Il me l'a dit à moi-même, et puis son fils Saif al-Islam plus tard. Hein, il disait, mais bien entendu, on a accepté de payer des compensations, mais c'est pas nous. Il jouait un petit peu les malins, si j'ose dire. Il disait, bon, écoutez, on connaît le monde, hein, on sait bien que c'est un truc politique, c'était le ticket d'entrée pour se réconcilier avec l'Occident. On sait bien comment ça marche, ces choses-là. Hein, il le disait pratiquement comme ça. Mais quand même, bon, il y a évidemment de gros... on est pratiquement certain que c'est lui, le Boeing du TA, donc il ne rechigne pas à ce genre d'attentat. Et puis la vengeance, bon, bah la vengeance, oui, il avait été visé personnellement. Hein, il y avait
absolument,
eu le bombardement de 86. C'était des aérodromes, des stations radars et...
Sa résidence.
Sa résidence, la caserne Baba Zizia. Il était légitime de penser que Reagan voulait le tuer, quoi, pour dire les choses simplement. Donc, la vengeance, c'est tout à fait dans, sans faire de folklore, c'est quand même tout à fait dans l'esprit bédouin que Kadhafi lui-même revendiquait. Et puis, bon, il y a toutes ces preuves, tous ces éléments. Enfin, c'est comme dans tous les bons romans, il y a énormément de choses qu'il accuse. Et puis, après tout, on ne peut pas exclure non plus une collaboration. Hein, une collaboration, pourquoi pas, la Libye aurait pu prêter un coup de main au FPLP. Bon, c'est pas non plus une hypothèse à rejeter. Donc, effectivement, il y a quand même beaucoup d'éléments contre la Libye. Même, malheureusement, l'enquête a été mal faite, et le procès aussi. Et donc, des doutes subsistent, puisque la justice écossaise en est allée jusqu'à refaire le procès, ce qui est quand même assez rare.
Et le colonel Kadhafi, puisque vous l'avez interviewé, quand il vous a parlé de cet attentat de Lockerbie, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que quand on a quelqu'un en face de soi, on peut voir aussi dans les yeux ce qu'il dit.
Alors, on a parlé surtout de l'UTA, hein, mais enfin, c'est un petit peu la même chose. Ça a été assez étrange, parce que, premier argument, c'est pas nous. On a payé des compensations, donc bon, c'est un raisonnement qui était valable aussi pour Lockerbie, mais on sait bien comment ça marche. Et puis, tout d'un coup, il glisse à complètement autre chose. Il me dit, mais après tout, vous savez, on était en guerre, puis dans toutes les guerres, il y a des morts. Et me parlant de l'UTA, des CDIS du TA, toujours, il me disait, et vous savez, des victimes civiles, nous en avons eu nous aussi, puisque, et les familles des pilotes libyens qui ont été abattus par la DCA française au-dessus de l'aéroport militaire de N'Djamena. Hein, il y avait eu une tentative assez pathétique, d'ailleurs, de bombardement. Et ces familles, ce sont des victimes aussi, donc vous voyez, enfin, c'est comme ça. Dans toutes les guerres, il y a des victimes. Donc, il légitimait, si vous voulez, un petit peu l'attentat, finalement, sur un point de vue qu'on n'ose pas dire moral.
Et votre sentiment, vous, pour vous, c'est un coup de Kadhafi de la Libye ou de l'Iran et de la Syrie alliés par l'intermédiaire du FPLPCG?
C'est vraiment très difficile à dire. Hein. Moi,
j'imagine.
Après, j'ai travaillé là-dessus. J'ai assisté aussi au début du procès en appel en Écosse. Franchement, je n'arrive pas à me faire une opinion. C'est vraiment comme un roman de John le Carré où il n'y aurait pas la fin.
Bien sûr.
Mais si on veut pencher vers la thèse du complot, enfin, on peut l'appeler comme ça, il y a quand même, moi, un élément dont on parle, qu'on considère cite assez peu et qui, moi, me frappe beaucoup, c'est la façon dont s'est terminé l'appel. En 2007, on met en place ce dernier appel, donc cette révision, en fait, devant la justice écossaise. Les avocats de Megrahi disent que parmi les raisons pour lesquelles il faut refaire cet appel, il y a les fameuses preuves, la valise de vêtements, le timer, mais il y a aussi le fait que des preuves fournies par la CIA ont été données au procureur, mais pas à la défense. C'est-à-dire, la justice dit à la défense, nous avons des preuves données par la CIA, nous les connaissons, mais on vous les donnera pas. Et donc, quand même, c'est extrêmement curieux, et ils n'ont jamais réussi à les obtenir. Et qu'est-ce qu'il se passe après? Donc le dernier appel là doit prendre place en janvier 2009, et il n'a pas lieu parce que tout d'un coup on dit que Megrahi effectivement est malade, ce qui est vrai, et qu'il faut qu'il rentre chez lui. Mais qu'est-ce que fait Megrahi à ce moment-là? Il abandonne son appel. Il dit il aurait très bien pu. Enfin, on imagine qu'il aurait pu dire bon, d'accord, merci pour la grâce médicale, je rentre chez moi, mais le procès continue. Et non, il renonce à son appel. Donc vraiment, on a l'impression qu'il y a une espèce de solde de tout compte. Là, oui. C'est quand même difficile de pas penser à un marché. Parce que cet appel aurait permis... Dernière chose troublante, cet appel aurait sûrement permis d'aller jusqu'au fond des choses. Voilà, on aurait peut-être pu savoir la vérité, puisque en octobre 2008, dans la préparation de cet appel, les avocats de Megrahi ont obtenu que dans cet appel, on discute de tout. Et non pas, il y a eu une dispute avec les procureurs, et ils ont obtenu qu'on discute de tout ce qui concernait l'attentat et les précédents jugements, et non pas seulement, comme le voulait l'accusation, des éléments factuels de la valise et du timer. Donc, on peut penser que vraiment, si cet appel avait été conduit, il devait durer un an, on aurait pu avoir le nœud de l'énigme, je pense.
Eh bien, ce sera le mot de la fin sur ces mystères. On aurait pu, mais on n'a pas pour l'instant. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment, Pierre Prié. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'attentat de Lockerbie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.